Vous écoutez RTL.
RTL 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. À la une, l'enfant terrible rentre dans le rang, finit les bêtises pour le prince Harry. Le célibataire le plus convoité du Royaume-Uni a annoncé son mariage avec l'actrice américaine Meghan Markle. Les deux amoureux qui viennent de se fiancer se diront oui au printemps prochain. Étrangère, métisse, roturière et divorcée, c'est une princesse atypique qui va faire son entrée dans la grande famille des Windsor. Alors dans RTL Soir, nous serons à Londres. Le spécialiste maison des têtes couronnées, Stéphane Bern, sera avec nous. Et nous reviendrons sur les frasques passées de Harry. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
Le Roundup, c'est reparti pour 5 ans. L'Europe vient de prolonger l'autorisation du glyphosate, substance herbicide potentiellement cancérogène. La France a voté contre et entre en résistance.
À 18h20, exclusivité RTL, première réaction de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, plaidé lui pour 3 ans.
18 mois de prison avec sursis pour un prof de 31 ans qui avait eu une liaison de plusieurs mois avec une élève de 14 ans. Au cœur des débats, la question de l'âge du consentement à un acte sexuel. L'avènement de l'administration bisounours, le gouvernement veut instaurer un droit à l'erreur. Vous serez toujours supposé de bonne foi. Dans ce journal également, jackpot pour le patron d'Amazon. Après le Black Friday, sa fortune dépasse les 100 milliards de dollars. Et puis après la fête, c'est encore la fête pour les tennismen français. Ils ont célébré leur belle victoire en Coupe Davis à Paris cet après-midi.
Et à 18h35, un mousquetaire heureux, notre héros bleu, Lucas Pouille, victorieux du match décisif chez lui dans le Nord, sera avec nous sur RTL.
La bourse de Paris, elle finit en baisse ce soir de 0,56% à 5360 points.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, ralliée à La République En Marche, Thierry Soler veut rester questeur de l'Assemblée, un poste traditionnellement réservé à l'opposition. Mais à quoi ça sert? Quels sont les avantages? Puis direction les coulisses de l'actualité, le long combat des familles des victimes de Dropt. Au moment où la justice se penche sur une demande d'indemnisation, on vous amène en coulisses près de 3 ans après l'accident d'hélicoptère. 18h30, Alain Duhamel et ce soir Jean-Luc Mélenchon, nouvelle autorité morale. Après 19h15, on refera le monde sur RTL. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
De la pluie pour demain et des températures en baisse.
Oui, forte dégradation pluvieuse sur toute la moitié nord du pays dès cette nuit avec des pluies localement soutenues et donc cette dégradation sera suivie d'une forte baisse des températures. À partir de demain après-midi, la pluie, elle va progresser dans la nuit et demain matin vers l'est et le sud-ouest. Les pluies seront encore très actives tout au long de la journée. Sur la moitié nord, le ciel sera très changeant avec de fréquentes averses. Et puis dans le sud, du côté de la Méditerranée, le ciel sera de plus en plus nuageux dans l'après-midi avec des températures comprises entre moins 4 et 10 degrés demain matin, 5 à 15 dans l'après-midi, 5 à Dijon, 8 à Lille et Grenoble, 9 à Paris, 14 à Marseille et 15 à Nice.
Merci Patricia et à tout à l'heure.
RTL Soir.
Il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Le prince Harry épousera Meghan Markle au printemps prochain, Isabelle.
La rumeur courait depuis plusieurs jours déjà et la nouvelle a été officiellement annoncée ce matin par Clarence House, la résidence officielle du prince Charles. Harry, l'enfant terrible, s'est assagi. Voilà un an et demi qu'il roucoule avec la belle actrice américaine. Haute-Soufi, vous êtes à Londres pour RTL.
En costume, cravate bleue, main dans la main avec sa fiancée, il affirme devant les caméra qu'il a su que c'était la bonne à la première rencontre. Pourtant, les Britanniques se souviennent qu'encore récemment, le prince Harry enchaînait les conquêtes féminines. Ça n'est d'ailleurs pas la seule raison de sa réputation d'enfant terrible de la famille royale. Soirées arrosées, consommation de stupéfiants et déguisements polémiques, Harry a souvent fait la une des journaux à scandale dans sa jeunesse. Cette époque est désormais révolue, mais le choix de sa future épouse est tout de même loin de ce que certains conservateurs auraient souhaité pour le cadet des princes de Galles. À 36 ans, Meghan Markle est de 3 ans son aînée, de nationalité américaine, métisse, actrice de série et divorcée. Mais elle est issue d'une famille aisée, a bénéficié d'une excellente éducation et se montre très engagée dans les causes humanitaires. Aujourd'hui, dans le Royaume, l'heure est donc à la célébration. Entre le Brexit et les attentats terroristes en série, les Britanniques attendaient une bonne nouvelle. Le mariage au printemps prochain leur donne enfin une occasion de se réjouir.
À Londres pour RTL, Aude Soufi.
Et la reine Elisabeth a été la première à réagir. Elle s'est dite enchantée par le mariage de son petit-fils. Theresa May félicite chaleureusement les amoureux. Pour l'instant, aucun détail sur les futures noces.
Et on y revient tout à l'heure avec Stéphane Bern. À quel âge peut-on avoir une relation sexuelle consentie? C'est la question que devait trancher le procès qui s'est ouvert ce matin à Fontainebleau, Isabelle.
Un enseignant de 31 ans était jugé pour avoir entretenu une relation pendant plusieurs mois avec l'une de ses élèves âgée de 14 ans. La jeune fille a toujours présenté cette affaire comme une histoire d'amour, mais aujourd'hui, elle a tenu un autre discours.
Avant, quand j'ai été entendue, j'étais encore amoureuse. J'étais encore dans l'optique de le protéger, en fait. J'étais encore dans l'emprise. J'ai pris du recul, j'ai regardé les choses d'un autre angle et j'ai parlé de choses que je n'avais pas dites. Et en parler à ma mère, ça m'a permis de remettre les pieds sur terre.
Le professeur était donc jugé pour corruption de mineurs et atteinte sexuelle sur mineurs par une personne abusant de son autorité. Gauthier de Lombugard, vous avez suivi l'audience pour RTL. Cet homme vient d'être condamné à 18 mois de prison avec sursis.
Oui, condamné pour le fait d'avoir eu une relation sexuelle avec une mineure de moins de 15 ans, pas pour avoir corrompu la collégienne afin d'obtenir son consentement. Tout au long du procès, c'est pourtant posé cette question. Le prof de 31 ans a-t-il profité de son autorité, des faiblesses de la jeune fille pour obtenir des relations sexuelles? Au début de l'audience, la collégienne de 14 ans s'avance à la barre. J'étais amoureuse à l'époque, mais je me sens salie. Il m'a fait faire des choses qui n'avaient pas lieu d'être. C'est de la manipulation, poursuit-elle. Léo, l'enseignant, la regarde hoche la tête pour montrer son désaccord. Avec son avocate, il s'attache à décrire une relation sincèrement amoureuse et un professeur de 31 ans qui n'a jamais été violent ni menaçant. La procureure reconnaît que Léo a bien profité de sa qualité pour obtenir une relation sexuelle avec son élève, mais l'adolescente savait ce qu'elle faisait, poursuit-elle. Elle savait que c'était interdit, les échanges de SMS l'attestent, il y avait donc bien consentement, et ce malgré la jeunesse et les 14 ans de la collégienne. Le tribunal a suivi et alimente un peu plus la question du consentement des mineurs.
Merci Gauthier de Lombugard pour RTL.
Et rappelons que samedi, Emmanuel Macron a souhaité que l'on fixe à 15 ans l'âge de consentement minimum à un acte sexuel.
Le débat aura duré plus de 2 ans. L'Europe donc a finalement décidé d'autoriser le glyphosate pour les 5 années supplémentaires.
Le glyphosate, c'est cet herbicide classé comme cancérogène probable il y a 2 ans. Il est présent dans des désherbants très grand public comme le Roundup. Nicolas Hulot espérait que l'autorisation serait prolongée pour 3 ans seulement. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
Cet accord des 28, c'est une surprise. Alors maintenant, que va faire la France ?
Alors, elle a voté contre cet après-midi. Pour la France, 50 plus, c'est trop long. Donc, premier scénario, elle pourrait très bien interdire le glyphosate toute seule, avant, dans les 3 ans, au nom du principe de précaution. Après tout, elle a bien décidé en 2009 d'interdire les OGM contre l'avis de l'Europe. Mais ça poserait un énorme problème à nos agriculteurs, car leurs concurrents, eux, continueraient d'utiliser le désherbant, qui est la solution la moins chère. Alors, Brune Poirson, la secrétaire d'État à l'écologie, vient de dire que la France restait déterminée à sortir du glyphosate en moins de 5 ans. Ça ne veut pas dire interdire, car il y a un deuxième scénario, le plus probable. La France prend acte, elle se range derrière la décision européenne. Mais de son côté, le gouvernement va agir pour aider les agriculteurs français à se débarrasser plus vite du glyphosate. Ça veut dire financer de la recherche, former les agriculteurs dans les écoles, enseigner de nouvelles pratiques. En attendant, la France vient de demander aussi à Bruxelles de modifier ses techniques d'évaluation des substances chimiques. Donc il va falloir refaire des études pour savoir si le glyphosate est vraiment dangereux ou pas.
Merci Virginie Garin. On en reparle avec Nicolas Hulot donc dans 10 minutes maintenant. Et à l'instant, son collègue de l'agriculture, lui, est heureux qu'un accord ait été trouvé à Bruxelles. Le choc de simplification est de retour avec une mesure emblématique, le droit à l'erreur.
Le gouvernement a dévoilé ce matin en Conseil des ministres son projet de loi censé faciliter les démarches administratives. Il prévoit que la bienveillance soit la norme. C'est-à-dire que désormais, si vous vous trompez dans une déclaration, l'État partira du principe que vous êtes de bonne foi. Une petite révolution pour vous et moi, tétanisée par une feuille d'un et aussi pour les entreprises. Vous l'avez vérifié, Quentin Vinet, dans une PME parisienne.
Oui, avec Tanguy Dezandre à la tête de Ma Place en Crèche, une société qui aide les parents à garder leurs enfants et qui voudrait de meilleurs rapports avec l'administration.
Oui, de façon latente, on n'a pas envie de s'adresser à l'administration pour lui poser des questions parce qu'on a peur de l'aider à pointer un dysfonctionnement dans nos déclarations ou dans notre organisation.
La possibilité de se tromper, ne serait-ce qu'une fois, voilà qui rassure le comptable Quentin Charrier.
Ça peut être un soulagement de me dire que je peux me tromper demain, c'est pas grave. Aujourd'hui, si je me trompe, ça peut avoir de conséquences sur la vie de la société pour une erreur, alors que demain, ça pourrait changer.
Éviter les longues procédures interminables et source d'ennui pour les 40 salariés, explique ce patron.
Par exemple, il y a quelques années, j'ai reçu un courrier de la part du RSI nous disant qu'il allait saisir mes biens personnels, qu'il reconnaissait que c'était son erreur, mais une fois que la machine s'emballe, il n'y avait aucune façon de faire machine arrière.
Ce projet de loi va dans le bon sens, mais ce patron avoue qu'il faudra certainement d'autres textes pour réconcilier une fois pour toutes administration et entreprise.
Le reportage RTL signé Quentin Vinet.
RTL Soir, 18h09.
On va marquer une pause et dans un instant, un vendredi à 100 milliards de dollars.
RTL Soir, 18h11, Marc-Olivier Fogel et pour la suite du journal Isabelle Choquet.
Et c'est l'effet du Black Friday. Depuis vendredi, la fortune du patron d'Amazon dépasse les 100 milliards de dollars, Isabelle.
C'est du jamais vu depuis 1999. À l'époque, c'est Bill Gates qui avait franchi cette barre symbolique. Cette fois, c'est donc Jeff Bezos qui a empoché près de 2,5 milliards en une seule journée. Ça donne le vertige, Philippe Corbet.
Oui, il s'agit bien de sa fortune personnelle, hein, pas de la capitalisation d'Amazon, même si évidemment il s'enrichit au fur et à mesure que les actions qu'il possède grimpe. Le titre a pris 2% pendant la séance de vendredi, 5% en une semaine, car les ventes en ligne pour ce vendredi fou de solde sont en hausse de 18% cette année. C'est un indice, ça veut dire que les ventes d'ici Noël vont battre des records. Rien qu'aujourd'hui, le cyberlundi, on estime que Amazon va engranger près de 7 milliards de dollars de commandes, car ici Amazon a totalement révolutionné le commerce. D'ailleurs, de nombreux centres commerciaux ferment. Mais même avant ses soldes, il avait engrangé depuis le début de l'année 32 milliards de dollars. Ça fait plus de 1000 dollars par seconde. Sa fortune a dépassé cette année celle de Bill Gates. Il a racheté le Washington Post, investi dans la conquête spatiale. Mais avec 70 milliards de plus depuis 2015, il n'a pas eu d'autre solution que de lancer un appel sur Twitter pour que des inconnus lui soumettent des projets de charité, de philanthropie, car il ne sait plus vraiment comment dépenser son argent.
Merci Philippe Corbet.
Et information RTL, en France, le Black Friday a fait sauter le record du nombre de transactions bancaires. 42,7 millions pour cette seule journée du 24 novembre, plus fort que les week-ends de décembre, dopés par les achats de Noël. La moitié des Galeries Lafayette vont être cédées. 22 magasins de province employant plus de 900 salariés doivent passer en franchise. Il y aurait 3 repreneurs sur les rangs.
En Indonésie, l'île de Bali vit sous la menace d'une éruption du volcan Agung.
Il gronde depuis plusieurs jours. Des colonnes de fumée grise très spectaculaires montent dans le ciel jusqu'à 3000 mètres. Des dizaines de milliers d'habitants ont fui leur maison et des milliers de touristes se retrouvent coincés car l'aéroport a dû fermer. Près de 450 vols ont été annulés. C'est le cas de Marina, en vacances dans le sud de l'île.
C'est impossible de partir, l'aéroport est fermé, tous les vols sont annulés. On ne sent pas grand-chose, hein. Je sais les locaux qui me disent un petit peu de pas paniquer. On n'est pas non plus hyper serein, mais je pense que ça va aller. Ce qui m'inquiète le plus, c'est plutôt le retour. On ne sait pas trop quand est-ce qu'on va rentrer, on ne sait pas si la compagnie du coup va nous rembourser ou pas. Mais j'ai quand même quelques semaines encore de vacances de prévu, donc j'aimerais bien ne pas les annuler, si possible. Pour l'instant, on peut juste attendre.
Témoignage RTL. Recueilli par Gabriella Boccaccio. Et puis 24 heures après, c'est toujours la fête. Les héros de la Coupe Davis sont de retour à Paris.
La nuit a été courte. Certains ont dansé jusqu'à l'aube dans une discothèque de Lille. Cet après-midi, ils ont fêté le 3e sacre de l'équipe de France au Centre National d'Entraînement, tout près de Roland-Garros. Isabelle Langer, vous êtes sur place pour RTL. Bon, il y a de la fatigue, hein, mais il y a de la joie.
Oui, ils étaient une centaine de salariés, mais aussi d'entraîneurs et de jeunes joueurs du CNE à accueillir leurs héros. Pendant plus de 2 heures, ils ont pu prendre des photos, parler avec les Tsonga, Puinoa et voir la coupe surtout. Hugo Humbert, apprenti champion.
Bah, ça fait rêver, hein. Ça donne envie d'aller la gagner. Mais bon, avant ça, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et puis, vraiment, ça fait rêver. Ça donne des frissons.
Cette Coupe Davis va aussi être partagée avec tous les licenciés de France. Le fameux saladier d'argent va en effet partir se balader dans les différentes ligues, dans les tournois également. C'est une volonté du président de la fédération, Bernard Giudicelli.
Comme a dit Yannick, ils vont pouvoir la tripoter.
Oui, enfin, il l'avait promis. Si les Bleus l'emportaient, la fédération offrirait 10 000 licences à des gamins de 10 ans et moins.
Des nouveaux licenciés qui vont venir. L'idée, elle est venue d'un jour, ce qu'a dit Nico Mahut ou Julien, qui ont toujours dit qu'ils sont venus au tennis parce qu'ils ont vu la finale de la Coupe Davis. On a voulu offrir cette possibilité à ces 10 000 jeunes.
Rendre le tennis accessible à tous, susciter des vocations pour dénicher les champions de demain.
Merci Isabelle Langer. Le champion d'aujourd'hui, donc Lucas Pouille, notre invité tout à l'heure à 18h35 sur RTL. À tout à l'heure Isabelle, vous revenez à 18h30.
À tout à l'heure.
Les clés pour bien comprendre l'actualité. Eh bien, j'y suis, j'y reste. Le député Thierry Soler rejoint La République En Marche, mais malgré la pression, il n'entend pas laisser à l'opposition son poste de questeur. Mais à quoi ça sert, un questeur? Et puis aussi, quels sont les avantages, Vincent Derosier?
Les avantages, ils sont nombreux. C'est pour ça que c'est le poste le plus convoité à l'Assemblée, juste après celui de la présidence. Et les places sont chères, il y a seulement 3 questeurs. Depuis 1973, c'est la tradition. 2 sont issus de la majorité et 1 du principal groupe d'opposition. Mais attention, le règlement n'impose rien. On dit généralement des questeurs acteurs qu'ils tiennent les cordons de la bourse. Aujourd'hui, Florian Bachelier, Lauriane Rossi et Thierry Soler gèrent plus de 500 millions d'euros de dotation de l'État. Ils élaborent et contrôlent le budget, mais pas seulement. Ils gèrent aussi les 6000 membres du personnel, le régime de sécurité sociale, le parc automobile, les restaurants, la fameuse buvette, les téléphones, les salles de réunion, le matériel de bureau des collègues. C'est aussi leur job. Bref, ils contrôlent tout.
Et il y a d'autres avantages ?
Oui, la fonction de caisseur rapporte 5000 euros brut par mois en plus de leur indemnité. Ils disposent aussi d'une voiture avec chauffeur et d'un logement de fonction à l'hôtel de la Questure. Un petit appartement de 400 mètres carrés.
Merci beaucoup Vincent.
RTL sort 18h16.
À suivre donc après la réautorisation du glyphosate pour 5 ans. Première réaction du ministre de la Transition écologique sur RTL, Nicolas Hulot, qui ne voulait pas qu'on aille au-delà de 3 ans.